Juste, bon, tout à l'heure, bon, j'ai bien écouté, je vous remercie beaucoup pour ces clarifications, mais aussi pour la communication de madame et aussi du collègue Abdelnour Bédar. Mais à certains moments, parce que je n'ai pas très bien, vraiment très bien saisi, mais j'ai entendu parler de théologie, j'ai entendu parler de religieux, j'ai entendu parler de laïcité, etc., etc., et d'islam. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas chez les musulmans de créationnisme. Il n'y a pas de tendance créationniste chez les musulmans. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arabes. En Afrique du Nord, ce n'était pas des arabes. Les grands moments de la science, les grands moments de la science dans le monde, en Afrique du Nord, l'école de Béjaïa, etc., etc., c'était des musulmans, ce n'était pas des arabes. Avicenne n'est pas un arabe. Ça veut dire les grands savants de l'islam n'étaient pas des arabes. Donc ce n'est pas lié aux arabes, c'est lié à l'islam. C'est-à-dire que l'islam n'a jamais été en opposition à l'esprit scientifique. L'islam ne remet pas en cause la théorie de l'évolution de Darwin. Le seul truc, peut-être chez les musulmans, c'est il y a les lois de la nature. Et quand on est musulman, ou bien quand on est croyant, quand on croit, ben on fait un pas en arrière et on se dit, ça c'est les lois qui se trouvent dans la nature et qui ont une origine première. Le problème, c'est juste l'origine première, mais les lois du fonctionnement de la nature sont celles-là. La théorie de l'évolution, récemment, on a découvert dans le désert d'Arabie Saoudite, Aramco, ont découvert des squelettes d'êtres humains dont l'avant-bras est plus grand que un être humain de notre taille. Dans la tradition musulmane, on dit que Noé a vécu presque 1000 ans. Donc il y a une évolution pour ce qui est de la taille, pour ce qui est de la durée de vie. Le problème ne se pose pas. Autre chose aussi par rapport à l'islam tout à l'heure, c'était le collègue parlait aussi de comment faire sortir la religion. Le problème de faire sortir le religieux pose problème. Peut-être ça peut être une solution ici, mais si on transpose maintenant ces choses-là ailleurs, pour dire que le religieux pourrait poser problème. L'islam, peut-être, j'ai compris ce que vous voulez dire, l'islam pose un défi à la laïcité en France parce que c'est un nouveau type de religion qui doit amener à la réflexion comment trouver de nouvelles solutions. Votre démarche pédagogique est intéressante, mais le problème qui se pose, c'est est-ce qu'en permettant à ces enfants au sein de l'enceinte de l'école à appartenir et à s'appartenir, on ne va pas les former selon un modèle. Et ce modèle serait celui de les faire sortir du religieux. Voilà, c'est juste. Voilà, merci.
Voulez-vous répondre?
Oui. Oui, ben là, moi je parle de sous l'autorité d'Ahmed Djebbar, hein, qui a fait plusieurs bouquins sur l'âge d'or des sciences arabes. Si. Ah, d'accord, bon, vous êtes dans la. Peut-être. Ouais. Mais si, il faut lire.
Les sciences arabes, mais ce ne sont pas des sciences arabes.
Bon, alors je ne sais pas si Ahmed Djebbar a raison ou tort.
Il le sait, les plus grands savants de l'islam ne sont pas nécessairement des arabes. Al-Khawarizmi, le logarithme, n'est pas un arabe. Avicenne n'est pas un arabe, etc., etc., etc. Le plus grand grammairien de la langue arabe. N'est pas un arabe, c'est un perse.
Quand vous
Les plus
dites
grands
que.
spécialistes de la langue arabe ne sont pas des arabes. Donc, assimilés arabes, il y a des arabes qui ne sont pas musulmans.
Non, mais tu veux
bon.
Aller où, là?
Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on parle de créationnisme et on parle d'islam, cela voudrait dire indirectement que l'islam, en tant que religion, serait opposé à la science.
C'est pas ce qu'on a dit, hein.
Non, pas vous, pas
non,
vous,
non, oui,
pas vous, pas vous. Mais si on parle d'arabes et non pas de musulmans, c'est comme si on disait que, disons, le califat abbasside, la grande apogée du califat abbasside, de la production scientifique, etc., la production en Andalousie, serait le fait d'arabes, en tant qu'arabes et non pas de musulmans. Et or, le moteur qui a fait bouger justement ces peuples qui étaient de nomades, analphabètes dans le désert, c'est l'islam, parce que l'islam est dès le départ à demander, à connaître, à savoir, à apprendre, à observer, à ne pas donner d'explications qui ne soient pas rationnelles, à être logique, etc., etc., etc. Maintenant, la cause première pose problème. Est-ce que c'est la dame mythique ou bien la dame historique? Est-ce que c'est les lois que Dieu a mises dans la nature, ou bien les lois de la nature elle-même? Et à partir de là, elles fonctionnent toutes selon les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles de causalité, de prédictibilité, etc., etc. Mais juste pour un musulman, il dira, ça c'est Dieu qui a créé. C'est le problème du hasard, le problème de l'arbitraire dans l'évolution du monde. Ben aujourd'hui, en connaissant plus le monde, on voit que le complexe va de plus en plus en avant, et que très souvent, là où on pensait qu'il n'y avait pas de loi, eh ben, il y en a. Même le chaos a ses propres lois. Et donc on dit qu'il y a, on croit peut-être en tant que musulman, qu'il y a une intelligence première qui a planifié ces choses-là. Mais on n'explique pas la science par cela. La science s'explique par l'expérience, par l'observation. C'est-à-dire, il y a le positivisme, mais qu'on refuse comme quelque chose d'extrême, mais disons un positivisme qui soit plus ou moins assimilé à autre chose, qui est la transcendance.
Une clarification, oui, s'il vous plaît. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas le créationnisme dans le monde musulman. Harun Yahya, aujourd'hui, il se manifeste par un créationnisme virulent. C'est au nom de l'islam qu'il le fait.
Oui. Mais vous savez, quand vous parlez d'épiphénomène, c'est comme il y a toujours dans toutes les sociétés, vous savez.
D'accord,
c'est-à-dire l'orthodoxie musulmane, quand l'orthodoxie, mais au sens positif du terme, l'orthodoxie musulmane, c'est celle-là.
Mais Harun Yahya, c'est pas un épiphénomène. Il a distribué l'Atlas de la création dans toutes les écoles, les collèges et les lycées
mais
en Europe.
En Europe, parce qu'il y a la liberté.
En Suisse, en Belgique.
Parce qu'il y a la liberté. En Europe, on peut distribuer ce qu'on veut. Mais il ne le fait pas dans le monde musulman. Ça veut dire, dans le monde musulman, on va lui... Ça, c'est de l'imposture intellectuelle.
Mais notre propos, c'était plutôt de montrer qu'il y avait un critère simple pour distinguer croire et savoir. Après, qu'il y ait des musulmans qui ont laissé faire la science son travail sans l'embêter, certes, et tant mieux. Il y a eu aussi des catholiques qui l'ont fait. Mais nous, notre propos, c'était pas tellement de rentrer dans... est-ce qu'une science est possible dans les pays musulmans? Ça, c'est évident que oui.
Non. C'est pour dire que... parce que vous avez tout à l'heure parlé, vous avez parlé du créationnisme, après vous avez parlé des religions, et vous avez parlé du judaïsme, du christianisme et de l'islam.
Oui, parce que
chez les intégristes, le problème est au niveau de la relation entre le religieux et le politique, mais pas dans la relation entre le religieux et le scientifique. Les intégristes,
mais
les fondamentalistes.
Parlé que des intégristes,
non, je voulais dire les fondamentalistes musulmans, les intégristes musulmans. Le problème peut-être avec eux, c'est au niveau de la relation entre le politique et le religieux, mais pas entre... Non, ils ne remettent pas en question la science telle qu'elle est, pas du tout. Ça, c'est les lois de la nature. Personne ne remet en cause la génétique. Il n'y a aucun théologien musulman qui... D'ailleurs, par exemple, l'avortement n'est pas interdit en islam. Il y a des conditions. On considère que si c'est nécessaire, on le fait. Il y a énormément de choses. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de quoi encore sombre dans le monde musulman, dans la réflexion. Et par exemple, juste avant de terminer, il faut lire Ghannouchi. Mais pas Ghannouchi en tant que responsable du parti Al-Nahda, mais Ghannouchi en tant que quelqu'un qui est aussi un philosophe. C'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie et il avance dans ses idées. Il est en train de construire.
Mais enfin, en tant que philosophe musulman, on peut trouver nettement mieux quand même.
Ah, bien sûr qu'il y a nettement mieux, mais c'est intéressant parce qu'il est à la tête d'un parti politique.
Oui, bien sûr.
Il est en train de faire.
D'une certaine dégénérescence de la pensée dans certains domaines, dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire que là, on prend deux exemples de gens qui, justement, ne sont pas à la hauteur de leurs prédécesseurs. Parce que ce soit Harun Yahya avec son atlas ou Ghannouchi avec la philosophie.
Mais c'est normal.
En réalité, une ignorance de Harun Yahya, c'est que. Et là, je vais aller d'abord dans votre sens. Ce n'est pas effectivement en islam traditionnellement le créationnisme qui pose problème. C'est-à-dire que ce que fait Harun Yahya, c'est de se saisir d'une problématique qui est totalement étrangère au corpus de l'islam. Bon, par là il manifeste en réalité son ignorance, parce que c'est pas par là qu'il va permettre à l'islam de régénérer sa propre pensée. Bon, mais par contre, ce qui pose problème du côté de l'islam sur le sujet dont on a débattu, c'est la question de l'intelligent design, c'est-à-dire la question du dessin. Quand on lit les grands philosophes musulmans, ils sont tous finalistes. C'est-à-dire que l'islam a un réel problème avec le finalisme. Mais attention, quand je dis un réel problème avec le finalisme, ça peut être un problème positif. C'est-à-dire que ils sont finalistes et en même temps, cette question philosophiquement est prise en charge par l'intellectualité islamique. L'exemple majeur, c'est Averroès. Lisez Averroès, hein, lisez ce qu'on a traduit en français sous le nom de traité décisif, hein, et vous allez vous rendre compte que les histoires d'horloge et d'horloger, de perfection de la création qui prouve le créateur, bon, c'est-à-dire tout ce qu'on a appelé en Occident les preuves ontothéologiques et cosmologiques. Voilà, bon, l'existence de Dieu, on trouve ça chez Averroès. C'est normal, c'était un aristotélicien. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire que je pense que effectivement il est nécessaire de faire la part des choses au sens où il ne s'agit pas d'imputer à l'islam tous les travers du monde, et en l'occurrence effectivement le créationnisme pour moi dans l'histoire de l'islam c'est quasiment rien. Par contre le finalisme c'est un véritable problème, et je pense que c'est une civilisation qui a sur cette question philosophique beaucoup beaucoup de choses à actualiser, à réfléchir de façon critique. Même Mohamed Iqbal, moi je m'intéresse à Mohamed Iqbal qui est probablement le penseur musulman le plus singulier du XXe siècle, sur la question du finalisme il y a vraiment de la matière, hein. Il y a vraiment de la matière critique vis-à-vis de lui. Je ne vais peut-être pas être trop long, je ne réponds pas sur la question de la sortie de la religion.
Parce que vous attendez qu'il aille dans votre sens.
Non, simplement j'ai cherché dans l'ensemble de la pensée musulmane quelqu'un qui ose affronter les défis intellectuels de la modernité occidentale, et il n'y en a pas beaucoup.
Oui.
Et une énorme formation des deux côtés, une énorme formation des deux côtés.
Il y a un article très récent de Fouzia Charfi dans Science et Avenir qui lutte contre les censures à l'heure actuelle en Tunisie, à l'université, et elle a fait tout un article justement pour montrer comment elle était remise en question en tant qu'astrophysicienne. Et ça, c'est-à-dire que la science à l'heure actuelle en Tunisie, il y a un débat et certains universitaires sont pris à partie. Tu connais cette physicienne ? C'est donc Fouzia Charfi, physicienne qui lutte contre la censure des sciences en Tunisie. Elle a fait un article très très long où elle est contestée dans son enseignement de la physique. Eh bien oui, mais justement, c'est la tentative de mettre la science en conformité avec les textes sacrés. Elle est remise en question par les intégristes, là, les salafistes, oui. Elle est remise en question et elle a un mal fou à l'heure actuelle. Elle est contestée dans ses cours parce que c'est dit carrément, il faut qu'elle mette sa présentation en adéquation avec les textes sacrés, et elle s'y refuse.
Dans les textes sacrés, il n'y a pas de vérité scientifique qui sont véhiculées par le Coran pour dire.
Oui, mais c'est sur la lumière, c'est en tant qu'astrophysicienne. Voilà. Et oui, mais ça prouve qu'il y a des. Oui, mais bien sûr que c'est instrumentalisé.
C'est pas lui qui est en cours.
Excusez-nous, mais nos conférenciers ont aussi d'autres choses là qu'il va falloir faire vite. Alors, une dernière question, et puis on va boucler la soirée.
Moi, j'ai une question alors d'ordre organisationnel et politique, hein, pour ramener le débat aujourd'hui à ce dont on parle. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des laboratoires qui font des travaux qui sont financés par des Temple Town ou des fondations, des gens qui ont de l'argent, donc créationnistes, et qui cherchent ainsi à s'infiltrer dans les laboratoires et à influencer, infléchir les travaux des scientifiques, etc. Et tout à l'heure, on parlait aussi dans les problématiques de laïcité, de la construction d'édifices religieux, etc. Et ça me revient à la question, ça me pose la question des financements. De la même manière que les laboratoires pharmaceutiques cherchent à entrer dans les contenus de la science, de la médecine, par exemple, comment fait-on, comment pourrait-on faire ? Est-ce que sur le plan d'une organisation ou d'un règlement politique, ou je ne sais pas exactement comment faire, pour faire en sorte qu'on ait un contrôle des financements et que, par exemple, un laboratoire de science ne puisse pas être financé à 100% par une fondation qui viendrait amener une orientation politique.
Vous ne seriez pas dans un monde libéral, madame, au sens économique du terme. Sous Raffarin, on a proposé de supprimer les crédits récurrents des laboratoires des deux tiers, le CNRS d'un un tiers. Enfin bref, ça a déclenché, sauvons la recherche, d'ailleurs, en 2004. Non, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que, pour, tout d'abord, Templeton, attention, il ne s'agit pas du créationnisme. Il s'agit d'un spiritualisme englobant. C'est pas le créationnisme au sens où on l'a dit tout à l'heure avec les falsifications ou avec Yahya. Oui, c'est le cas le plus sophistiqué. Ils récusent eux-mêmes l'appellation, hein. Ils veulent pas qu'on les appelle créationnistes. Mais ils procèdent d'une méthode d'influence qui va assujettir en quelque sorte les laboratoires à leur propre légitimité d'influer sur ce que doivent être les champs de recherche en sciences. Alors, ils sont très malins, ils financent, mais il n'y a pas de... c'est les plus malins, hein. Ils financent, mais il n'y a pas d'attendu dans les résultats. Vous n'allez pas truquer vos résultats pour... vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous faites ce que vous voulez, on vous finance, et simplement, ils récupèrent votre nom. Et il se tire une légitimité dans la réédition de la totalité des œuvres de Darwin sur le web, sur la toile. Hein. Donc on est là dans un travail de communication extrêmement sophistiqué. Alors, j'ai vu ça à Boston, je faisais une conférence à Harvard justement, et le labo qui m'avait invité voyait ses crédits récurrents, enfin pas récurrents, mais ses crédits diminuer. Et le chef de labo faisait une demande de subvention à la Templeton. Et les petits malins qui m'avaient invité ont dit au patron de labo, tu devrais aller voir le français là-bas, il n'aime pas beaucoup la Templeton. Alors j'ai discuté une heure avec le patron de labo, mais le patron de labo il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi l'an prochain, lui, il est génial, il est gentil, il est méritant, il doit faire son postdoc, il doit faire sa thèse, j'ai plus rien pour le payer, l'argent n'a pas d'odeur. Moi si la Templeton me finance, j'en ai rien à faire des conséquences. Donc oui, vous avez raison. Ces organisations qui se payent une légitimité par l'argent, qui n'est pas une légitimité qui passe par les urnes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les États refluent, acceptent d'abandonner leur volant politique au bénéfice de mécènes, qui sont souvent des industriels, et là, pire, une organisation pour le progrès des religions en sciences. Les États, par leur reflux, laissent ces organisations financer les laboratoires. Et donc du coup, en retirant toute mention à la religion, ces organisations font le travail d'orientation du travail des sciences, font l'orientation du travail des sciences sans annoncer la couleur. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour identifier les sources de financement? Il faudrait que nos États, alors excusez-moi les Jacobins, mais se préoccupent véritablement du bien fondé... L'universel doit nourrir l'universel. Je reprends la formule de Penarwis. Je suis penarwisien, hein, vous avez compris. Et donc, sous ce principe, nos États doivent revenir à un contrôle quasi exclusif de la science en termes de crédit récurrent, et que l'argent de vos impôts serve vraiment à faire de la science dans des directions où les concitoyens à l'Assemblée nationale auront... décider de là où on doit l'emmener et pas laisser Total décider. Alors, je dis ça, je ne sais pas si je suis enregistré, mais il se trouve que... Oui, et ben voilà, j'ai une doctorante qui est financée par la Fondation Total. Et donc, vous voyez, je suis honnête, je me suis tiré une balle dans le pied, c'est-à-dire que je récuse la capacité des industriels à financer les laboratoires, et pourtant, je n'ai pas pu résister à une offre qui m'était faite. Donc, parce que justement, les crédits récurrents, y compris en France, diminuent. Donc heureusement Total c'est pas la Templeton, mais bon c'est autre chose. Hein.